Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Bienvenue à l'émission Peut contenir des infos. François Côté qui est avec moi, juste à côté, là, il est drette là sur sa chaise.
Je suis vraiment côté.
À côté.
Côté.
Côté est à côté.
Oui. Oui, absolument.
Pas à côté de ses pompes, pas à côté de la traque.
Non.
Mais juste côté.
Mais en fait, c'est même pas côté, mon nom.
C'est vrai, hein?
C'est parce que c'était Coste quand ils sont arrivés au Canada.
OK.
Et ils ont ajouté un accent aigu sur le E.
Ou sur le O?
Oui.
Sur...
Moi, j'ai pas de chapeau, moi, sur mon O.
OK, OK, je mélangeais les affaires. Ah oui,
ouais,
c'est ça.
C'est vrai, moi, j'ai pas
de... C'est O-T-E. Mais pourquoi ça se... Bon, on prononce quand même côté.
Côté, oui.
Tout simplement.
Parce que les côtés, il y en avait déjà okay. au Canada. Fait qu'on dit, bon, ça va sonner pareil, mais on va être différent parce qu'on n'aura pas de chapeau.
OK, ben c'est pas pire, ça.
Ben oui.
Ah, tu vois, un petit part de l'histoire que tu viens de nous dévoiler aujourd'hui.
Voilà.
Donc, t'es pas un côté, t'es un coté.
Ça pourrait être ça, oui.
Ouais, coté en bourse, ou je sais pas trop.
C'est ça.
Une richesse en soi, ce gars-là. Hein?
Comme j'ai toujours dit, je suis pas un côté de maison.
OK. On va saluer. Sylvie.
Sylvie.
Sylvie, auditrice de?
De Unique FM.
Auditrice d'Unique FM. Elle est à Ottawa. Elle dit qu'elle allait faire un tour, elle, au musée au Parc Vanier, ça a l'air.
Mm-hmm.
Où il y a une cabane à sucre.
Oui, effectivement. À tous les années. Oui.
Puis elle dit, c'était drôle parce qu'elle dit, j'avais écouté l'émission, ce qu'elle nous a dit dans un courriel, elle dit, j'avais écouté votre émission où vous parliez du sirop d'érable.
Oui, avec notre ami de l'Est-Ontarien.
Exactement.
Oui.
Elle dit, ben c'était comme pas très loin de ma région,
oui.
Fait que ça m'est revenu en tête quand je suis allé faire un tour au Musée au Parc Vanier, à la cabane à sucre.
Oui, alors les gens qui veulent nous envoyer un message, comme Sylvie,
oui.
Faites-le, gênez-vous pas, pcdi@radio-rfa.com.
Restons dans le bois. Ben, dans le bois. Pas dans la forêt à proprement parler, mais dans le domaine du bois avec mon sujet.
Ah, OK.
Tu savais pas de quoi j'allais te parler?
Non, pas en tout. Ben, non, parce que habituellement, on se donne un petit indice de nos sujets, mais là...
Du tout.
On se l'est pas dit, là. Aujourd'hui.
Comme ça, je voulais faire une surprise.
OK, d'accord.
Ah.
Tu veux parler de cure-dents?
Non. Je vais aller dans le plus gros que ça.
Okay.
Pas mal plus gros que ça. Savais-tu que le bois, ça peut servir aussi à construire des gratte-ciels.
Hmm.
Ah ouais, monsieur. Hmm. On savait d'ores et déjà. Ouais. Des gratte-ciels. Non, mais c'est sérieux, là. Tu vois, puis pas qu'un peu, là. Ben, remarque, le Burj Khalifa, là, je pense qu'il fait 160 et quelques étages.
Ouais.
Il n'y aurait pas ça en bois, là. En 2x4, là, ça commence à plier un peu en haut. Mais on sait d'ores et déjà, évidemment, que le béton et l'acier sont deux matériaux qui sont fréquemment utilisés
oui.
pour construire des édifices en hauteur, ce qu'on appelle communément des
gratte-ciels.
Mm-hmm. Soit dit en passant, là, je veux juste tempérer un peu vos ardeurs, là. Je vous ai parlé de gratte-ciel, mais il n'y a pas à proprement parler de nombre minimal d'étages pour être considéré comme un gratte-ciel. Ça veut dire ça?
Non.
Gratte-ciel, ça peut avoir 5-6 étages dans le fond, là. Ouais, ça peut être aussi peu que ça.
Ça dépend si les nuages seront bas.
Je sais pas, mais en tout cas, l'appellation gratte-ciel, c'est pour oui. peu que ça soit en hauteur et assez haut et que ça ait une certaine, disons, prestance dans le décor.
Okay.
Là. On peut dire quasiment que c'est un gratte-ciel.
Okay.
Mais quand même, tu vas voir que ceux dont je vais te parler aujourd'hui, je vais te faire le top 3 des plus hauts gratte-ciel en bois au monde.
OK.
Ouais. Dans ces édifices qui sont construits en hauteur, en mm-hmm. bois, les données proviennent du CTBUH.
Le quoi?
C'est une abréviation. Le Council on Tall Buildings and Urban Habitat,
oui.
Alors, il s'agit d'une organisation non gouvernementale internationale qui œuvre dans le domaine des immeubles en hauteur et dans le design urbain durable. Donc, eux autres...
Okay.
Ils s'occupent de tout ça, les gratte-ciels.
Ben oui.
Quand tu vas sur leur site web, d'ailleurs, tu as la nomenclature de toutes les tours à travers le monde. Là. Le plus haut étant le Burj Khalifa, comme j'ai dit. 168 étages, un truc du genre. 800 quelques mètres. C'est presque un kilomètre de hauteur.
Hey, c'est long à monter.
Non, c'est long. Là. C'est long à monter. Tu montes pas ça à la course, là. Tu
prends
ton temps un petit peu. Ou l'ascenseur.
Ça
va mieux. Mais avant de commencer, on va être honnête, là, OK?
OK.
Certains de ces édifices-là dont je vais vous parler contiennent du béton et de l'acier. pour qu'on puisse les ériger un petit peu plus en hauteur. De toute façon, entre vous et moi, faire un solage en bois, c'est pas les gros chars.
Non.
T'es peut-être mieux d'y aller dans le béton, finalement.
Oui, c'est un petit peu plus solide.
Mais ceci dit, ces trois bâtiments-là dont je vous parle sont érigés pour la grande majorité de leur structure à partir soit de bois massif ou encore des composants en bois lamellé et collé, ce qu'on appelle du glue lam, je pense, ou lam glue, je sais pas trop. Puis évidemment, la quincaillerie là-dedans, là, tu sais, les ferrures de porte, là, puis les clous, les affaires de même. Écoute ça. Alors, je commence avec la troisième position.
Oui, vas-y.
Quand même, je disais tantôt que 5, 6 étages, ça peut déjà être considéré comme un gratte-ciel. D'ailleurs, je pense que les premiers gratte-ciels étaient pas beaucoup plus haut que ça, là, quand ça a poussé à l'époque, Chicago, New York et tout ça, là. Mais tu vas voir que ceux-là sont quand même pas si pires, là. En troisième position, le Hohovienne, ou Vienne, je pense qu'on prononce, enfin, il est situé en Autriche. Tu ris, toi, quand je fais des prononciations comme ça, hein?
Oui. Non, j'aime ça.
Alors, c'est un ensemble.
J'aime ton accent.
Oui, j'essaye autant que faire se peut. Je m'excuse pour les Autrichiens, là. Alors, c'est un ensemble de trois tours connectées entre elles en forme de L et chacune possède un noyau en béton pour soutenir la structure en bois. Et au-dessus du rez-de-chaussée, quand même, là, 75% du bâtiment est constitué de bois.
Wow.
Il fait quand même, c'est pas pire, là. 84 mètres de hauteur, c'est 275 pieds et demi en bois. Mm-hmm. Les murs, les plafonds, les planchers, les colonnes, c'est tout en bois.
Tout en bois.
Le bâtiment fait pas moins de 24 étages de hauteur.
Hmm.
24 étages en bois.
Ouais, je pensais pas qu'on pouvait aller si haut que ça avec juste du bois.
Ouais, ouais. Deuxième place, c'est la tour, on dit Mjøstørna. Mjøstørna. Alors, on l'appelle communément...
La quoi?
La Mjøstørna. En anglais, on dit la Mjøsa Tower.
OK. Okay?
C'est situé, celle-là, du côté de la Norvège. Elle était à son ouverture en 2019 et jusqu'en 2022, le bâtiment en bois le plus haut au monde. Elle compte moins d'étages que la troisième place. Elle a 18 étages contre 24 pour l'autre, celle dont on parlait tantôt. Mais c'est de la façon dont elle est construite, ça fait qu'elle est plus élevée. En haut, il y a une espèce de fête là qui monte et puis ça fait qu'elle est plus haute. Elle renferme, cette tour-là, 33 appartements, 72 chambres d'hôtel, 85,4 mètres de haut. C'est 280 pieds. C'est haut, ça aussi.
Ouais.
C'est à peine un mètre et demi de plus que l'autre, la troisième position, mais c'est assez pour lui conférer le rang numéro 2. Et je complète avec celle qui est en première position, 25 étages, 87 mètres de haut, c'est 284 pieds, c'est pas loin de chez nous, c'est aux États-Unis, c'est le bâtiment, c'est le Ascent MKE, c'est à Milwaukee, dans le Wisconsin, et elle est devenue à son ouverture en 2022 le plus haut bâtiment en bois massif au monde. Ça repose sur des colonnes en bois lamellées collées, et c'est un produit manufacturier, je vous en parlais tantôt un petit peu, c'est des lamelles de bois qu'on colle les unes aux autres, et l'édifice renferme des appartements de luxe et des commerces de vente au détail.
C'est effectivement excessivement rigide, le bois collé, là.
Oui, oui.
C'est vraiment, vraiment rigide. Ah,
les colonnes sont faites comme ça. La base est en béton, là, comme on le disait tantôt. Les cages, l'ascenseur, l'escalier, ce sont évidemment pas en bois.
Non.
On n'a pas poussé la loque jusqu'à faire des ascenseurs en bois, là. Mais sinon, tout le reste de la structure est fabriqué en bois. C'est quand même assez extraordinaire.
Non, mais pense-y, là, OK? C'est le double de hauteur de l'édifice dans lequel on est.
Exact. En bois.
Et c'est tout en bois.
C'est fort.
Mais Zach, c'est fort.
Impressionnant.
C'est wow. Vraiment impressionnant. Moi, je vais te parler de quelque chose complètement différent. OK? Je vais te parler d'un jeune qui... C'est un adolescent de 14 ans qui est originaire du Michigan. Il a fait les manchettes depuis quelques jours là pour une raison assez particulière, c'est qu'il réussit pas à se trouver des souliers à sa grandeur.
Ah oui?
Ouais.
Les pieds trop grands?
C'est plate. Il porte des 23.
Ben non.
Des 23.
Ben non. 23.
23.
Ça n'a pas d'allure.
Hey, c'est quasiment trois fois mes pieds.
C'est des raquettes.
Tu vois, attends une minute. Le jeune, il mesure 6 pieds et 10.
Ah là, OK. Je
t'en dis, comme... T'es un jeune qui est un gros armoire à glace.
Oui, c'est ça, exactement.
Et devine quel sport qu'il pratique.
Quoi, du football?
Le basket.
Du basketball? Ah ben oui, OK. Ben oui,
il joue au basket. La mère du jeune Marc s'appelle Rebecca, le jeune s'appelle Eric Kilbourne. Elle a demandé de l'aide sur Internet pour trouver des chaussures pour son fils. Étant donné, bon, toutes les difficultés rencontrées qu'elle pouvait pas en trouver. Et il y a une marque de sport.
OK.
Under Armour.
Ah, ben,
oh, ça tombe-tu bien?
OK. On a le porte-parole Under Armour en studio avec vous, mesdames, messieurs.
et la compagnie a vu le message et a décidé de venir en aide à ce pauvre petit enfant de 6 pieds 10.
Petit, ouais.
Afin de lui fournir une paire de souliers. Finalement, à sa grandeur, pauvre lui, il n'y avait jamais eu, depuis qu'il était tout petit, des souliers assez grands pour lui.
Ben voyons donc.
C'est plate. Et à un moment donné, il était 2 ans à porter des crocs parce que c'était la seule affaire qui rentrait sur le pied. Pauvre gars. Alors, la compagnie a décidé à rencontrer la famille et tout ça. Et ils ont décidé, bon, ben OK, garde, choisis un modèle. Là, okay. On va le faire un 23.
OK.
Un 23. Fait que pour la première fois de sa vie, il va avoir une paire de souliers juste pour lui comme ça. Et l'histoire se termine avec sa mère.
Oui.
Je trouve ça tellement beau. Elle a amassé une somme de 23 000 $ via GoFundMe.
OK.
Pour aider justement les gens qui ont des grands pieds et qui sont pas capables de se trouver des souliers.
Hey, il y a des causes dans la vie, là, tu sais. Il y a des affaires, des fois, qu'on voit arriver comme ça, qu'on dit... C'est... Mais là, franchement, c'est jamais vu, là.
Mais non, c'est jamais vu.
Wow!
Ben, tu sais, je trouve ça le fun parce que, bon, sa mère a connu tellement d'années difficiles
à
essayer de chausser son fils que là, elle a dit, attends une minute, là, moi, je vais aider les autres aussi. Qui pourraient... Parce que, tu sais, toutes ces années-là, elle demandait à l'aide des magasins, ouais, mais, tu sais, vous pouvez pas demander à une compagnie, il y a personne qui l'aidait.
Du 23, François!
Je sais bien, mais... 23, ben...
23, c'est deux pieds qui changent?
Ouais, c'est presque deux pieds de long.
Wow! Aïe, aïe!
Ben, mais ça, hey, ben, ça fait des méchants souliers. En passant, Shaquille O'Neal.
Oui.
Le joueur de basket.
OK, qu'est-ce qu'il
fait? Lui, il porte des 22.
Ah, des 22?
Oui, il porte des 22.
OK. Mais il aurait pu lancer une invitation comme ça à une célébrité de lui filer, je sais pas, moi. Ouais, mais... Remarque, quand tu t'appelles Shaquille O'Neal... T'as les moyens, mettons, de t'acheter des souliers puis,
oui.
puis de t'adresser, frapper aux bonnes portes, puis il y a probablement déjà quelqu'un qui a dit « Hey, Shaquille, mets nos souliers.
Oui, » oui.
On va te payer à place que...
Exactement. À place que toi, tu payes. Mais non, on va t'organiser ça, mon grand.
OK. On s'arrête pour une courte pause. Première de l'émission. On revient dans un instant. Vous écoutez. L'émission peut contenir des infos. Puis n'hésitez pas à nous écrire là, si jamais ça vous tente. Faites comme Sylvie. On vous donnera l'adresse tantôt encore.
Cette émission peut contenir des infos.
La troisième semaine d'avril, François, c'est la semaine nationale de sensibilisation au don d'organes et de tissus.
Pour vous dire l'importance du don d'organes, à titre d'exemple, selon les chiffres de l'Institut canadien d'information sur la santé, 2750 transplantations d'organes pleins ont été pratiqués au Canada en 2021. C'est 6% de plus que l'année précédente et 23% de plus qu'il y a 10 ans, Simon. Et
justement, pour en parler, nous recevons avec nous aujourd'hui le docteur Michel Paquet. Il est néphrologue spécialisé en transplantation au CHUM. Et vous dire à quel point il est spécialisé en la matière, quand on a sollicité la Société canadienne du sang, donc l'organisme responsable de la collecte et de l'approvisionnement en produits sanguins à travers le Canada, ben, c'est vers lui que spontanément on nous a dirigé puisqu'il occupe un poste de conseiller auprès de cet organisme-là. Il est très impliqué justement dans les dons d'organes et tout ça. Et on l'a avec nous au téléphone aujourd'hui, le docteur Paquet est là. Bonjour docteur Paquet, bienvenue à Peut contenir des infos.
Bonjour Monsieur Fogg, bonjour Monsieur Côté, ça me fait plaisir de vous rencontrer.
D'abord docteur Paquet, expliquez-nous, c'est quoi le don d'organes et de tissus au juste et pourquoi c'est si important que ça dans notre société?
Bien, écoutez, c'est bien connu que le domaine de la transplantation, c'est un domaine qui permet à des patients qui ont des maladies très graves, qui atteignent leurs différents organes, de pouvoir, dans certains cas, continuer à vivre, parce qu'ils ne pourraient pas continuer à vivre sans une transplantation, et dans d'autres cas, d'améliorer grandement leur qualité de vie et leur espérance de vie. Mais on comprend que pour faire des transplantations, ça prend des organes. Les organes, il faut les prélever chez des personnes, soit des personnes qui sont décédées, soit dans certains cas, des personnes vivantes. On peut prélever certains organes, on peut en parler un peu plus tard. Mais en gros, la majorité des transplantations qui se font au Canada présentement d'organes, c'est fait à partir d'organes prélevés chez des personnes qui sont décédées. Des personnes qui sont décédées dans un contexte assez particulier, là, qu'on appelle la mort cérébrale ou le décès neurologique, c'est à peu près 1 à 2% des personnes qui décèdent seulement, qui sont dans cet état-là. Alors, c'est pas toutes les personnes qui décèdent qui sont des candidats à un don d'organes, mais évidemment, on sait pas à l'avance. Donc, la semaine de sensibilisation, c'est pour bien faire connaître les enjeux, de répondre aux questions, de s'assurer que les personnes sont au courant que c'est une possibilité, lors d'un décès, de faire le don de certains de ces organes, encore une fois, quand c'est un décès dans un contexte particulier qu'on appelle le décès neurologique ou la mort cérébrale.
Quels sont les critères à respecter pour être un donneur d'organes et de tissus? Est-ce qu'il y a des restrictions à considérer?
Très, très peu de restrictions. Alors, c'est évidemment, lorsqu'une personne décède dans les situations, dans les circonstances que j'ai décrites, et une évaluation médicale qui est faite pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication au don, il y en a des contre-indications, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, évidemment, on veut s'assurer de la bonne qualité des organes, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de problème de santé majeur qui était présent chez la personne qui décédé, problème de santé qui pourrait être transmis au receveur lors d'une greffe. Alors, on parle soit de cancer, on parle d'infection sévère. Alors, tout ça, c'est évalué. Mais pour se dire intéressé ou se manifester son souhait d'être un jour un donneur d'organes, si on est dans une situation de décès comme on a discuté, il n'y a pas vraiment de contre-indication, il n'y a pas de limite d'âge officielle, une personne peut avoir différents problèmes de santé et quand même être un donneur d'organes potentiel. Tout ça, c'est évalué au moment où ça se présente.
Je pense que l'important, c'est, corrigez-moi si je me trompe, docteur, mais c'est d'en parler avec sa famille, de les conscientiser à notre volonté, nous, tandis qu'on est vivant, de vouloir qu'on prélève nos organes une fois qu'on sera décédé.
Tout à fait. Alors, la première chose, c'est de s'assurer que les gens sont bien au courant que c'est une possibilité et qu'il n'y a pas d'enjeu. Les gens, parfois, avaient des préoccupations autrefois de dire « si je me manifeste comme un donneur intéressé éventuel, est-ce qu'ils vont quand même s'occuper de moi? » Alors, évidemment, pour rassurer tout le monde, les personnes dans les salles d'urgence, les personnes dans les soins intensifs sont là pour sauver les vies. Ils vont tout faire pour préserver la vie. C'est juste quand on arrive au moment du décès où c'est vraiment irréversible, une mort cérébrale, où là, on envisage cette option-là de fin de vie qui est une option de don d'organes. Alors, si une personne se dit intéressée à être un donneur d'organes, étant donné si elle se retrouvait un jour dans cette situation-là, il y a différentes démarches qu'il faut faire. On peut s'inscrire dans des registres. Toutes les provinces ont des registres où on peut s'inscrire comme donneur d'organes potentiels. Chaque province a ses particularités, mais c'est une démarche qui est relativement simple. Donc, c'est important de manifester son désir, soit en signant une carte de don d'organes, en s'inscrivant dans un registre dans la province où on habite. Et, comme vous l'avez dit, c'est important d'en parler à nos proches, de faire savoir à nos proches quelles sont nos intentions pour pas que ça soit une surprise. Encore une fois, si on se retrouve dans cette situation-là, puis on en a déjà parlé à nos proches que c'était notre souhait, nos proches sont beaucoup plus susceptibles de respecter ce souhait-là s'ils étaient au courant, plutôt que s'ils l'apprennent à ce moment-là qu'on avait signé une carte, ils n'étaient pas au courant, mais parfois il peut y avoir certaines hésitations.
Quel est le processus de don d'organes et de tissus?
Alors, le processus, encore une fois, la première étape, c'est de faire un diagnostic de décès. Alors, évidemment, la personne, elle est décédée aux yeux de la loi, elle est décédée au point de vue médical, mais dans un état où le cœur continue à battre, dans un état où les organes sont perfusés et oxygénés, donc les organes restent en santé. Donc, la première étape, c'est que le décès soit prononcé. À ce moment-là, il y a une approche avec les proches de la personne qui est décédée pour voir s'ils envisagent cette option-là de fin de vie. Donc, évidemment, il y a une démarche d'information, d'expliquer la situation, que la personne, elle est décédée, que c'est une option de fin de vie de prélever les organes pour bénéficier des personnes qui en ont besoin. Il y a une période de réflexion, il y a une période, on laisse le temps aux gens de réfléchir à tout ça. Il n'y a pas vraiment d'urgence, je veux dire, dans la minute ou dans l'heure qui suit. Là, on a quand même du temps. Puis, si les proches consentent à ce que la personne décédée soit un donneur d'organes, à ce moment-là, la personne, elle est en général aux soins intensifs et l'évaluation médicale est complétée pour s'assurer que tous les critères sont remplis pour, comme j'ai dit plus tôt, que les organes sont en santé pour être transplantés et qu'il n'y a pas de contre-indication ou de conditions médicales qui pourraient être transmises lors de la transplantation. Alors, il y a plusieurs organes qui peuvent être prélevés et les tissus peuvent être prélevés. Plusieurs tissus peuvent être prélevés. Les critères pour prélever les tissus sont plus larges que les critères pour prélever des organes. Alors, souvent, on va prélever une partie des yeux pour faire une greffe de cornée. On peut prélever les os, on peut prélever les valves cardiaques. Il y a plein de tissus qui peuvent également être prélevés à ce moment-là.
Un surprenant, hein, parce qu'on a toujours l'impression que ce sont des choses comme, par exemple, les poumons, je ne sais pas trop, les autres organes du genre. Ça va beaucoup plus loin que ça. Docteur Paquet, la troisième semaine d'avril, on l'a dit tantôt, semaine nationale de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus. À part cette semaine-là, pour conscientiser les gens, c'est quoi les autres, les autres manœuvres, si je peux dire, excusez l'expression, ou les autres procédés qu'on a là, pour sensibiliser les gens, la population? Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation à la télévision? Est-ce qu'il y a des prospectus? Est-ce que les gens dans les hôpitaux remettent eux-mêmes, par exemple, de l'information à ce sujet-là aux familles? Ou...
Oui, alors évidemment, il y a plein d'informations qui est disponible pour le grand public. Les différents organismes provinciaux en don d'organes au Québec, c'est l'organisme qu'on appelle Transplant Québec. En Ontario, c'est Trillium Gift of Life. Il y a un organisme semblable dans chaque province. Au Canada, la Société canadienne du sang fait également beaucoup de sensibilisation. Donc, il y a plusieurs organismes. Il y a aussi des organismes, je dirais, de caritatifs. Par exemple, je connais bien la Fondation canadienne du rein qui font beaucoup de campagnes de sensibilisation. Et donc, il y a plein d'informations qui est disponible. Évidemment, disponible en ligne, disponible dans des pamphlets qui sont distribués dans les différents hôpitaux. Tous ces organismes-là sont en période ou en mode de sensibilisation, je dirais, à l'année, mais évidemment, dans l'année, il y a des périodes plus importantes. La semaine nationale du don d'organes et de tissus, évidemment, pour la sensibilisation, est une semaine où les efforts sont augmentés pour vraiment sensibiliser le grand public.
Quels sont les défis auxquels on est confronté actuellement au Canada en matière de don d'organes et de tissus?
Alors, malheureusement, il y a une pénurie d'organes. On aimerait avoir plus d'organes parce qu'on a plusieurs patients qui sont en attente d'une greffe. Les patients doivent attendre plusieurs années, dans la majorité des cas, avant d'avoir accès à une greffe parce qu'on n'a pas suffisamment d'organes pour tous ces patients-là. Certains patients qui sont sur une liste d'attente pour une transplantation d'organes peuvent, avec le temps d'attente, devenir trop malades et atteindre un moment où, malheureusement, ils sont trop malades et ne peuvent plus être greffés. Il y a certaines personnes qui, malheureusement, pendant cette période d'attente-là, peuvent décéder. Donc, il y a un prix à payer de notre santé d'être longtemps sur une liste d'attente. Alors, si on avait un nombre plus grand d'organes, ce qui veut dire un nombre plus grand de donneurs d'organes, les temps d'attente seraient beaucoup plus courts. Vous l'avez mentionné, le nombre de transplantations, si on compare à il y a 10 ans, a augmenté et c'est une excellente nouvelle pour plein de raisons. Mais encore une fois, il faut continuer nos efforts de sensibilisation pour s'assurer qu'au moins les gens sont au courant que c'est une option à la fin de notre vie dans certains cas. Hein, je mentionne, c'est 1 à 2% des personnes qui décèdent qui peuvent être un donneur d'organes. Mais de faire de la sensibilisation pour que les gens s'inscrivent dans les registres dans leurs provinces respectives et en parlent à leurs proches.
Ben, espérons en tout cas qu'avec une entrevue comme celle-là, diffusée d'un océan à l'autre à travers les radios francophones au pays, ben, espérons qu'on aura au moins réussi à faire un peu de sensibilisation. Hein? Au moins, c'est... à quelque chose.
Tout à fait. Écoutez, je vous remercie pour votre collaboration. C'est grâce aux médias du grand public, grâce à vous, où on peut passer ce message-là que nous, évidemment, on trouve vraiment important. Et je m'en voudrais de pas mentionner aussi la pensée qu'on a tous et qu'on continue à avoir envers les personnes qui ont donné et leurs proches qui ont accepté que leurs proches ont donné un organe. Plusieurs des patients que moi je rencontre qui ont été transplantés nous le mentionnent tout le temps, ont une pensée pour la grande générosité de la personne qui avait émis ce souhait-là et de leurs proches qui ont accepté que ça puisse aller de l'avant. Ça fait une immense, immense différence dans la vie, dans la santé des personnes qui reçoivent les organes.
Docteur Michel Paquet, néphrologue spécialisé en transplantation au CHUM, conseiller également, on l'a dit en ouverture d'entrevue, conseiller à la Société canadienne du sang. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue.
Merci, docteur.
À l'occasion de la Semaine nationale de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus.
Merci à vous.
Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Tout d'abord, on voudrait, Simon, s'excuser auprès des auditeurs, auditrices de notre émission, parce que vous allez peut-être entendre des petits bruits en arrière, une drill, un marteau.
Oui, c'est pas des bruits gastriques là d'un non. gars qui a faim ou quoi que ce soit du genre.
Non, c'est correct, qu'on a bien mangé.
C'est ça, ça n'a pas rien à voir, c'est non. qu'il y a des travaux qui s'effectuent dans le bâtiment.
C'est ça, et c'est étant donné que c'est un bâtiment en béton.
Et ben, ça peut arriver que de temps
ça
en
résonne,
temps...
Ça résonne,
depuis le début de l'émission ou encore pour le reste de l'émission, de temps en temps, vous pourriez entendre un bruit d'une perceuse ou encore d'un marteau, des trucs du genre. Donc, veuillez nous en excuser.
C'est ça.
C'est bien involontaire de notre part. Toi, tu vas parler de...
Moi, je vais te parler la semaine dernière.
Oui.
Okay, à la dernière émission, on a reçu notre ami Marc Bouchard.
Oui, le Marc Bouchard.
Le Marc Bouchard, le Gotchard. Et il nous a parlé de la Kia EV6 GT, comment elle était rapide sur le 0-100 km, comment la Tesla est rapide sur le 0-100 km. Et là, je me suis comme posé comme question, OK, mais c'est quoi les véhicules les plus lents sur le 0-100, à part ma Vega, là, que j'ai eu.
Ouais, c'est ça.
Il faisait en 38 secondes.
Mais toi, tu vas nous parler des véhicules, là, d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui, ouais, ouais. Mais les plus lents.
OK.
Mais les plus lents. Mais je dois vous dire une chose, là, OK? Le 0-100 km, là. Qui c'est qui pèse vraiment sa pédale pour vérifier comment sa voiture... Non. Tu sais, dans la vie de tous les jours, on se promène en ville ou en campagne, on fait pas du 0-100, là.
T'sais. Le plus important, tant qu'à moi, c'est de savoir que si, par exemple, on est sur une route à 90 et qu'on roule et qu'on a devant soi quelqu'un qui est à, on va dire, 70 km/h,
là. Qu'on veut dépasser.
On a la puissance pour le faire suffisante pour pas qu'on se retrouve avec un véhicule qui arrive en face de nous autres mais en faisant comme,
C'est ça, mais de savoir que tu fais 0-100 en 3 secondes, bah, bon. C'est pour moi même important.
N'empêche.
Okay. Au 10e rang. Le Honda HR-V.
Le véhicule de mon papa.
Ah oui?
Ouais.
Eh bien, il le fait en 10,1 secondes. En 9e position, le Hyundai Tucson.
J'en ai un vieux, par exemple.
Oui. Mm-hmm. Il fait, lui aussi, en 10,1, avec son moteur de 2,5 litres. Le Kia Sportage en 8e position. Kia Sportage 2023, mais le Kia Sportage et le Tucson...
C'est pas mal la même affaire.
C'est des petits cousins, là.
C'est ça. Hein?
On s'entend que c'est des cousins. Il fait en 10,3 secondes. La Toyota Corolla Cross, qui est pas vieille, là, ça fait comme 2 ans qu'elle est sur le marché, avec ses 169 chevaux, elle est pas tellement rapide, elle le fait en 10,3 secondes. Le Kia Niro, lui, en 6e position, la variante hybride non rechargeable du Niro, ben, on s'entend que c'est la consommation, là. On prime la consommation et non le 0-100. Elle le fait en 10,4 secondes. En 5e position, ça, j'ai été un petit peu surpris, par exemple, le Jeep Cherokee.
Ah oui?
Oui, il fait en 10,7, mais c'est avec le petit moteur, le 2,4 litres.
Ouais, mais en même
temps, c'est quand même 180 chevaux, mais sauf que le Cherokee est quand même assez relativement pesant.
Ben c'est un peu ce que j'allais dire. Il y a quand même une bonne masse à traîner, lui.
Ben
là.
C'est ça, là. Tu sais, il pèse pas.
T'as pas,
une
tonne. t'attends pas nécessairement d'avoir le même comportement d'un Jeep Cherokee que d'un Honda Civic, là.
Non, pas vraiment.
Pas vraiment.
Tu l'achètes pas nécessairement pour ça non plus.
Non plus.
En quatrième position, Nissan Kick, Qashqai et la Versa. Pourquoi je vous dis les trois? C'est parce que c'est le même moteur.
Oui.
Qui développe plus ou moins là entre 120 et 141 chevaux, dépendant de la version. Là, ça fait ça en 10,7 secondes. Ça commence à être long un petit peu, là. Mais attendez, j'ai pas fini, là.
Voilà.
Voilà.
On l'attendait.
Ah, ce bruit-là, on l'attendait.
On l'a appelé.
Ah oui.
C'est pas un oiseau de quelque sorte que ce soit. Ça s'appelle la perceuse d'Amérique.
Oui, c'est le bruit le plus agréable que vous avez jamais entendu. Ouais.
Moi, c'est pas grave.
Quand tu vis ça une journée de temps, là, laissez-moi vous dire que c'est le fun.
Continue.
En troisième position, le Mitsubishi RVR, qui lui fait en 11,5 secondes, malgré quand même un moteur de 2 litres, là, mais son moteur de 2 litres développe juste 148 chevaux, ce qui fait que, bon, il fait à 11,5. En deuxième position, Hyundai Venue, le petit multisegment qui a remplacé l'accent, là,
absolument.
La toute petite voiture, ça prend du temps, là.
Ah oui? Et dans le 12 secondes?
T'as beau peser dessus, là, c'est 11,6.
Ouais.
Mais la palme revient...
Sur la plus haute marche du podium des véhicules qui font le 0-100 le plus lentement.
Oui, la Mitsubishi Mirage.
Ouais.
Ça, j'étais vraiment pas surpris, là. C'est parce que son moteur développe 78 chevaux.
Ah ben là.
Tu sais, la voiture à beau est petite là, mais elle le fait en 13,2 secondes.
Oh, OK.
13,2.
Fait que c'est pas exactement un argument de vente là.
Ben non, pas tout à fait, mais tu sais, c'est pas le but d'une Mirage.
Ben non.
Le but d'une Mirage, c'est de se promener en ville.
C'est ça.
Ben, fait qu'en ville, tu fais pas 0-100. Ça te dérange pas de faire 0-100 en 13,2 là, tu vas d'un stop à l'autre là.
Alors, mesdames, messieurs, si vous avez l'un de ces véhicules-là,
oui,
j'espère que vous ne vous prenez pas pour un Jacques Villeneuve en puissance ou quelque autre pilote de course, parce que vous n'avez pas la bête pour assurer.
Non, c'est ça.
ce compte-là, serait peut-être mieux de s'en aller vers un jeu pour une Mustang ou quoi de même, peut-être?
Oui, une Mustang, mais remarque qu'une Tesla le fait quand même en 3 secondes, mais la Lucid Air, je pense, le fait plus rapidement encore.
Tu disais que c'était pas agréable quand même,
non,
là, 0-100
en
3 secondes.
Moi, je trouve ça tellement violent. Là. C'est pas agréable. Là. Mais c'est parce que je suis d'une autre génération et j'ai été élevé avec des gros V8. Là, que quand tu pesais dessus, tu avais le kickdown.
OK.
Fait que ça prenait un certain temps avant que ça embarque. Puis là, quand ça embarquait, là, ça partait. Mais c'était pas violent. Parce que ça, c'est instantané. Hein.
Oui.
T'sais, tu pèses dessus, boum!
Ça part.
Ça part.
Exactement. C'est comme à toute fin utile, si on faisait une comparaison avec un appareil domestique qu'on a chez soi, ce serait comme de mettre le pied sur la pédale de la machine à coudre.
C'est ça.
Puis ça se met à virer, là.
Oui.
Tu sais, il y a toujours un petit gradateur, mais si tu mets la pédale dans le fond, ça vire.
C'est ça. Exactement. C'est ça,
exactement.
Toi, tu nous parles de quoi?
Je vais rester dans le domaine de l'automobile.
Oh, OK.
Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des rapprochements comme ça.
Oui, hein.
Tu t'ennuies
ça
un peu.
Un
hein?
petit bout, oui. Ben oui, okay. Je voulais pas t'en parler, là, mais.
Ben, dépendamment du véhicule que vous avez, ou devrais-je dire, peu importe, ce serait mieux choisi, peu importe le type de véhicule que vous possédez, qui fasse le 0-100
en 13
ou en 3 secondes, l'une des choses qui vous importe le plus quand vous avez un enfant dans la voiture, c'est d'avoir un bon siège d'auto.
Siège d'auto.
Je vous parle du siège d'auto pour enfants le plus sécuritaire au monde, mesdames, messieurs.
Oh.
Rien de moins.
OK.
Quand on parle de sièges pour enfants, on s'entend qu'il y en a une méchante gang.
Une trolley.
Il y en a, tu vas dans une boutique, juste aller faire un tour chez Toys R Us, entre autres.
Oui.
Il y a encore des Toys R Us.
Oui, il y en a encore.
Je sais pas s'il y en a encore aux États-Unis. Je pense que ça a fermé, non, en tout cas. Au Canada, il y a Toys R Us et Babies R Us, là.
Oui.
Tu rentres là-dedans, là, tu t'en vas au département des sièges d'auto, là. Ouais.
Il y en a un peu un autre.
Hein? Tu vas passer une journée, là, quasiment, là, à faire des comparatifs.
Puis, tu sais, lequel je prends?
Ben, c'est ça l'affaire.
C'est ça le problème.
Mais là, on vient de lancer ce qui pourrait bien être le siège d'auto.
Ah, ouais. Celui-là qu'on met entre guillemets. Ah,
absolument.
Oh.
Rien de moins. Ben, son concepteur est nul autre que Frank Stevenson. C'est qui Frank Stevenson?
C'est
juste le designer en chef du réputé fabricant d'automobiles McLaren. Depuis 2008.
Bon, OK.
Rien que ça. Fait que le gars, les autos, il connaît pas ça.
Non.
Et puis le stylisme, le design, ouais, non plus, ça. Comme vous le constatez. Alors, la compagnie qui commercialise ce nouveau siège s'appelle Baby Ark. C'est une entreprise israélienne qui se spécialise dans les équipements de sécurité pour enfants dans la voiture. Et ce siège d'auto, il est offert depuis le mois de mars 2023.
Okay.
Quand on dit que c'est flambant neuf,
oui,
là,
ça vient d'arriver sur le marché.
Récent. Il est conçu, et c'est pour ça qu'il est considéré comme l'un des plus, sinon le plus sécuritaire au monde. Il est fabriqué en fibre de carbone. Donc, on n'est pas dans le banal,
Ah, mais il vient de McLaren, là.
C'est sûr. Oui. Alors, c'est un matériau qui est connu pour sa grande résistance. Mm-hmm. Et le modèle en question a été soumis à plus de 200 tests de collision.
OK.
200 fois.
Wow.
Et on dit, on va s'assurer que ça fonctionne. Uh-huh. Et il a résisté à tous les types d'impacts. Fort. Très
mais
fort.
La fibre de carbone, c'est
un peu ça la patente. Ouais. Mais et attention, c'est pas juste le matériau qui fait qu'il est si résistant, c'est aussi le design. Okay. Il est fait un peu comme une coquille d'œuf.
Ah ouais.
C'est spécial à voir un peu, pas évidemment de vous le montrer à la radio, mais donc ça assure au siège ses impressionnantes caractéristiques de sécurité. Il est en plus doté d'un système d'absorption de choc à base d'acier qu'on appelle le Safe Coil, qui est un système développé pour les militaires. Pour absorber les chocs, ce qui fait là ce système-là, c'est que quand il y a un choc qui est pris par l'avant du véhicule, par exemple, ou même par l'arrière, peu importe d'où ça arrive, c'est qu'il va s'assurer de ralentir doucement le siège, l'élan du siège, si bien que le bambin qui est assis dans son siège va pas être garroché vers en avant, mais le siège va comme prendre, le retenir tranquillement grâce au système Safe Coil.
Wow.
La coque du siège est construite à partir de matériaux, comme je l'ai dit, à la fois légers et résistants. Donc, tout ça, cette combinaison d'éléments-là fait que le siège peut accueillir des bébés et des enfants jusqu'à 6 ans. Et on peut le positionner autant vers l'arrière que vers l'avant, dépendamment de l'âge des enfants. On sait que les enfants, quand ils sont bébés, face vers l'arrière.
Oui, c'est ça.
Et une fois qu'ils sont rendus un peu plus grands, 4, 5, 6 ans, par exemple, on peut les tourner vers l'avant. Et comme si c'était pas assez, là, vous dites, coudonc, que c'est ça, cette patente-là.
Oui, c'est ça.
Il y a en plus 14 capteurs connectés qui sont intégrés au siège en question, de façon à transmettre toute une quantité d'informations au conducteur dans une application qui est installée sur son téléphone. Évidemment. Vous allez dire, pourquoi des capteurs tant que ça? Ben, entre autres choses, pour savoir que si vous avez eu un accident, le siège est-il encore bon? Il va vous dire, il est brisé ou il est pas brisé.
Okay.
Tu peux le réutiliser. Ah, déjà pas pire.
Ouais.
Il capte si le bébé est à l'intérieur. Donc, ça pourrait éviter, par exemple, que vous sortiez du véhicule en oubliant, comme c'est déjà arrivé, malheureusement.
Oui.
Il y a des parents qui sont sortis du véhicule, ils ont oublié le bébé dans le siège. Tragédie.
On sait ce qui est arrivé,
Bébé décédé. Bon, avec ça, alors, vous sortez, vous laissez le bébé dans le siège. La lettre sur le téléphone, ça dit le bébé dans le siège. Oh, phew! Une chance. Et, cet équipement-là, ce siège-là, construit par le designer en chef de McLaren, est offert. Écoutez, il y a un prix en conséquence.
Ben là, c'est ça que j'allais dire. Et en fibre de carbone, là.
Exact. Et je conclue avec ça.
Oui. $990 US
en précommande. Sur le site du fabricant et on vous presse un petit peu de l'acheter parce qu'une fois la période des précommandes terminée, le prix va grimper de $200 pour atteindre 1190$.
Mais
c'est le prix du... Est-ce que tu peux comparer le prix d'un siège avec le prix d'un enfant?
Ben non, puis de toute façon, tu fais 6 ans avec.
Exactement. Tu l'installes de la naissance de l'enfant jusqu'à son sixième année ou à peu près.
Tu l'amortis sur 6 ans, c'est pas si pire que ça.
Le coût de ce siège-là, qui vous aura coûté peut-être, on va dire, en dollars canadiens, 1200, 1300 piastres, quelque chose dans le genre, va être amorti justement sur 6 ans.
Fait que c'est pas si pire que
ça. Ce qui est quand même pas trop pire.
Ben non, puis, tu sais, s'il est fait tellement bien comme tu l'as mentionné, ben après ça, tu le passes à quelqu'un d'autre.
Exactement. Alors voilà, on va s'arrêter pour une courte pause.
Oui.
Tu es prêt pour ça?
Ah, moi, je suis toujours prêt pour une pause.
Toujours prêt pour une pause, quand même. Si tu peux me donner un break, s'il te plaît, bon, je serais bien content. OK, fait qu'on s'arrête pour une pause, puis on revient dans un instant avec notre dernier bloc de Peut contenir des infos.
Cette émission Peut contenir des infos.
On avait la réflexion, François et moi, tout à l'heure, qu'on pourrait très bien parler en ondes à la radio, comme on se parle dans le bureau quand on est...
quand on discute de voiture.
Quand on est en dehors des
ondes. Quand on parle de char.
D'électronique, de trucs du genre. Mais Ce que vous entendez, soit dit en passant, parce qu'il y a déjà des gens qui se posent la question.
Oui.
Est-ce que ce que j'écoute en onde à la radio, c'est la même affaire que
si on... C'est la même affaire.
C'est la même affaire.
Si on se rencontre dans la rue, on va vous parler de la même façon qu'on vous parle.
La même façon. C'est juste un peu le niveau de langage.
C'est, on fait un petit peu plus attention que, bon.
C'est ça.
Tu sais. Change. Quand on regarde une game de football ensemble.
Exact. Parce que des fois, on échappe, là, tu sais.
C'est ça.
Le. Voilà.
Oui.
Tu veux nous parler de quoi, toi?
Tu sais qu'on est rendu au printemps, là?
Hein? Ben oui, hein? Ça a
l'air. On est rendu au printemps. On pense à faire le ménage du printemps?
Exact.
Mm-hmm.
Mais, une affaire que j'adore.
Oui, moi aussi, c'est mon passe-temps favori. Tu sais que, bon, on fait le ménage rapidement toutes les semaines, prend une trentaine de minutes, on ramasse, bon, on est poussette un petit peu. Ça a de l'air spick and span, mais on a tendance à oublier des petits bouts.
On tourne des coins ronds, hein?
On tourne des coins ronds, puis tu sais, déjà, c'est assez difficile de se rappeler qu'il faut nettoyer régulièrement notre Keurig, là. On le fait pas tout le temps, là, mais on devrait le faire tout le temps. La laveuse.
Ben oui, la laveuse.
La laveuse.
Le lave-vaisselle met du tang.
Oui, met du tang dans ton lave-vaisselle, effectivement. Télécommande, l'espace entre le four et les armoires. Hmm?
Oui.
Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques endroits qu'on devrait peut-être plus fréquemment aller, qu'on va pas assez peut-être souvent. Et les trucs proviennent de Vera Peterson. C'est pas n'importe qui, là.
Ah non, hein, Vera.
C'est pas n'importe qui, Simon. C'est la présidente de Molly Maid.
OK. Je pensais que t'allais m'arriver avec quelque chose comme sélection du Reader's Digest. J'aurais dit, oh,
mais là,
oh là, attends, là.
Attends, mais... les sécrétions de lecture indigeste, hein? Oui, c'est ça. bon, OK. Le premier article qu'on devrait peut-être nettoyer un peu, puis des fois qu'on a tendance à pas, c'est le plafond du micro-ondes.
Hey my God!
Et tu sais, bon, tu fais cuire de quoi, ça éclabousse, puis tout ça, tu laves les côtés, tu vas laver la plaque en vitre, puis tout ça, mais on va pas toujours au plafond parce qu'on le voit pas.
C'est ça, exactement.
Parce qu'on le voit pas. Un truc de Madame Peterson, c'est... Très, très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est ajouter un quart de tasse de vinaigre à une tasse d'eau, faire bouillir pendant 3 minutes, et après ça, vous allez voir, vous allez essuyer, puis ça va tout décoller.
Oui, la vapeur va...
C'est ça. Si ça vous tente pas de commencer à gratter, là, ben vous pouvez le faire de cette façon.
Ah, puis faites-le de temps en temps, parce que c'est jamais drôle quand tu fais réchauffer des crêpes de te retrouver avec...
Un morceau de pepperoni.
De la sauce à spaghetti.
Oui, c'est ça. C'est que ça vient, ça. Les évents de la sécheuse.
Ah oui.
Tu nettoies tout ça, toi?
Oui.
OK. Les évents, c'est les ventes.
Oui, oui. À l'extérieur. Okay? Oui,
c'est
oui.
Le tuyau dur qui sort de votre sécheuse et le tuyau dur qui va dehors de la maison.
C'est ça.
OK. Ça, c'est les... Puis on le fait pas, mais on devrait le faire.
J'avoue, je fais souvent plus l'extérieur, ou enfin le tour, le bout du tuyau, mais tout le reste...
Non, ben, c'est parce que c'est un petit peu tannant. Si votre sécheuse est collée au mur, faut tirer la sécheuse.
C'est ça.
Et là, commencer à enlever le tuyau, le petit tuyau...
Oui, qui est flexible. Là.
Le flexible.
Ouais.
Puis là, commencer à nettoyer.
C'est d'autant plus important, je pense, qu'il y a des risques d'incendie avec la mousse de sécheuse.
C'est ça le problème.
C'est ça. Hein?
C'est ça le problème. Ça, il faut le faire. L'écran du téléviseur.
Et...
Ou le téléviseur lui-même.
Oui.
Facile. Vous passez un plumeau sur le téléviseur. Vous avez un petit chiffon en microfibre. Vous passez ça sur les évents, sur les haut-parleurs, sur les autres crevasses qu'il y a sur votre téléviseur. Mais si vous nettoyez l'écran, faites très attention.
Ben oui.
Parce que il faut prendre une solution de nettoyage qui est étiquetée comme étant sans danger pour les écrans électroniques, et vous vaporisez pas sur l'écran.
Sur le chiffon.
Sur le chiffon, puis après ça, vous nettoyez.
C'est ça.
L'espace entre la cuisinière et les armoires. Celle-là, on y va pas souvent, puis on devrait peut-être y aller, parce qu'il en tombe des affaires à côté du poêle.
D'avoir une belle collection de...
Oui. Et ça, on parle pas non plus du dessous de la cuisinière et du réfrigérateur.
Ah non, ça.
Quand est-ce que tu tires ça?
Ben.
On devrait les tirer au moins une fois par année, là. Au printemps, dire, OK, on va tirer le réfrigérateur, on va tirer la cuisinière, puis on va aller nettoyer en dessous parce qu'il s'en ramasse pas mal des affaires en dessous de ça.
Puis des fois, elle va savoir, tu peux peut-être trouver des affaires que tu fais comme, ah!
Ah, c'est là que c'est...
T'es là sur cette affaire-là. Ah!
Oui, effectivement. Les pales de ventilateurs...
Eh, my!
OK, ça, je dois dire que je suis assez assidu. Je le fais au moins une fois par mois.
Surtout si tu l'as au-dessus de la table de cuisine.
Ben, c'est ça. Moi, c'est mon cas. Alors, j'ai comme pas le choix, puis l'autre, c'est au-dessus du lit, fait.
T'as allumé ça fait longtemps ou ça s'est passé ça, soudainement quand t'as eu un mouton dans ta soupe?
Ben, à un moment donné, c'est quoi cette affaire-là?
Oh!
OK. Puis là, il neige dans la maison.
Il y a eu un peu de négligence.
Il neige dans la maison. La dame nous dit, facile, solution très facile pour les nettoyer. Glisser une tête d'oreiller sur chaque lame, une à la fois, bien sûr, en utilisant la partie supérieure de ta tête d'oreiller pour essuyer la lame et la partie inférieure pour attraper les débris. Ensuite, vous prenez un chiffon, vaporisez un nettoyant dessus, là,
oui.
Et puis...
C'est bien intelligent, ça.
Je le sais. Je le sais. Quand je,
Tu passes ça, puis ça ramasse. Ben, mon oui. Dieu Seigneur.
Ça fait pas de moumoute partout. T'en ramasses pas à terre, t'en ramasses pas...
T'es de riz, on a tout le monde a ça chez eux, en plus.
Ben oui.
Hey.
Les télécommandes, vous les nettoyez comment souvent, vos télécommandes? Puis pourtant, on y touche à chaque jour. Et on a des bactéries sur les doigts chaque jour.
Puis là, on se lève vite, là, pendant c'est le film ça. Pour aller aux toilettes. Puis on revient vite avant que la pause elle soit terminée pour que j'aie le temps de recommencer.
Et vous prenez la manette.
Et c'est ça.
Ça, c'est là, des petites lingettes, là, déjà, avec du liquide dedans. Là,
pour, oui.
Tu sais, les Lysol, là.
C'est ça. En faisant attention, évidemment, pour pas mettre de liquide dans la...
Oui. Oui, oui. Faut faire très attention pour que ça commence à couler à travers les tipitons.
Et c'est complet.
Mais, tu sais, c'est des bouts qu'on pense pas nécessairement à faire trop souvent.
C'est vrai.
Parce qu'ils sont pas nécessairement à la vue non plus, là, tu sais, à part peut-être le ventilateur qui est tannant, là.
Tu m'as allumé sur certaines affaires que... Une chance que j'étais pas en train de manger, finalement.
Ouais, c'est ça.
Et les gens qui le sont actuellement,
oui.
Parce qu'il y a des endroits où on est écouté à l'heure des repas.
Oui.
Ben, coudonc, je m'excuse.
Oui. Mais
François devrait s'excuser.
Oui, c'est ça. Mais le plafond du micro-ondes, celle-là, là, quand je l'ai vu, j'ai fait...
C'est
hey, c'est-tu vrai, ça?
C'est très vrai.
On l'oublie tout le temps.
La seule fois à peu près qu'on passe un linge là-dedans, c'est quand on fait, je sais pas, une sauce à spaghetti, un truc du genre, on réchauffe de quoi, puis à un moment
donné... Ça a splashé bien comme il faut, là.
C'est là, on allume, on fait comme « Oh!
Ah, » ouais.
OK. Puis là, en se faisant, on ramasse quelques affaires qui sont passées avant.
Mm-hmm.
Tu sais que la marche, c'est la santé, hein, tu sais ça?
Oui.
OK. Mais marchez-vous suffit... Ben oui, il dit ça, puis... Marchez-vous suffisamment quand même pour que ça puisse avoir une incidence sur votre espérance de vie?
Ben, stationnement au building, c'est 10 minutes de marche. Je fais de la marche rapide.
5 aller, 5 revenir, bon, c'est quand même ça.
C'est ça tous les jours.
OK. Il y a une étude japonaise qui a été publiée récemment qui nous apprend le bon chiffre, le bon nombre de pas que ça prend pour accroître la longévité. C'est entre 5000 et 7000 pas par jour minimum. Fait que t'es loin du compte avec ton 10 minutes. Oui, parce que je vais vous dire tantôt ce que ça équivaut à peu près là. Et plus on dépasse les 7000 pas, plus on fait baisser les risques de décès.
Ah, OK.
Donc idéalement, en bas de 5000, ça vaut presque pas la peine là, ben oui, marcher pareil, là, c'est pas ça, mais ça
c'est encore
pas...
bon pour votre santé.
Non, c'est bon là, mais ça aura pas tellement d'incidence.
Ouais.
C'est à partir de 5000 à 7000 et au-delà là, ça va mieux. Il y a une équipe de chercheurs de la région de Kyoto au Japon, ils se sont penchés sur le lien qu'il y avait entre les risques de décès et le nombre de pas qu'on effectue dans une journée. Pendant l'étude, il y a 4165 hommes et femmes de 65 ans et plus qui ont été suivis.
Waouh.
Ça a commencé en 2013, ça a été mené pendant 4 ans et on vient de publier ça en février dernier, le temps d'étudier tout ça, dans la revue américaine Medicine and Science in Sports and Exercise. Et les conclusions, c'est que les personnes âgées qui marchaient moins de 5000 pas quotidiennement ont abaissé le risque de décès de 23%.
23%? Wow!
Ouais. Aussitôt qu'ils ont augmenté leur marche quotidienne d'à peine 1000 pas, donc jusqu'à 5000 pas... Somme toute assez négligeable.
OK.
Puis,
plus t'en rajoutes un mille.
Plus t'en rajoutes un mille, plus que tu augmentes tes, ou en fait que tu diminues, devrais-je dire, les risques de décès. Les bénéfices de la marche quotidienne sur la longévité plafonnent autour de 5 à 7 000 pas, mais plus qu'on va augmenter, plus qu'on va passer la barre des 7 000 pas à tous les jours, plus on diminue les risques de décès. Comment est-ce qu'on fait ça, 5 à 7 000 pas quotidiennement?
Ben, c'est ça que j'allais te demander, parce que avec ma petite montre là, intelligente, là, moi j'ai mis mon compteur à 3 000, puis j'y arrive pas souvent.
Pas vraiment. C'est une heure de marche.
Une heure de marche.
Ouais, une heure de marche. Prendre une marche quotidienne d'une heure c'est entre 5 et 7 000 pas, évidemment, dépendamment du train où vous allez, là, de la fréquence que vous avez. Et une heure de marche quotidienne, c'est optimal pour accroître sa longévité. En tout cas, pour les Japonais, évidemment, qu'on a étudié, mais je pense que ça doit se traduire.
Je pense que ça devrait être assez général.
Pour le monde. On savait que la pratique d'une activité physique quotidienne comme la marche, ça améliorait la santé, que ça contribuait même à prolonger la vie, mais on savait pas vraiment, OK, mais combien de pas? Il y en a qui disent,
combien que ça
10 000
prend, là?
Pas par jour. Wait a minute. 5 à 7 000, une marche quotidienne d'une heure, c'est déjà très, très bon. Évidemment, si vous êtes capable de franchir la barre des 7 000,
ben oui, tant mieux, là.
Allez-y. Mais si vous êtes au moins capable d'en faire 5 000, ben, marchez une bonne heure par jour, là, puis c'est déjà pas pire.
Et c'est pas violent comme,
C'est ça la beauté de la marche, hein.
Ben, c'est ça, c'est juste le fun de prendre une marche.
Exactement. Puis ça se fait relativement facilement pour peu que tu sois actif. T'as pas nécessairement tout le temps besoin de sortir à l'extérieur. Non. Même dans un bureau, par exemple, si vous travaillez dans une tour à bureau, prenez l'habitude de temps en temps de sortir, aller vous chercher un café, aller aux toilettes, revenez, aller parler à des collègues, des trucs du genre, au lieu de décrocher simplement le combiné de l'appareil du téléphone, l'intercom pour dire, hey, c'est quoi, là, qu'il fallait? Prenez vos papas. Marchez tranquillement, pas trop vite. Allez au bureau de votre collègue. Oui. Et de cette façon-là, mine de rien, vous allez mettre en poche des pas.
Ça, puis tu fais travailler ton corps un peu.
Exactement.
Parce que d'être assis toute la journée, là,
vous le savez maintenant. Oui. 5 à 7
Une bonne marche.
Une bonne marche d'une heure par jour, ça devrait suffire.
Bon, OK, on s'en va-tu marcher?
On va aller prendre une marche.
Oui, ouais, là, l'émission est finie.
On se retrouve la semaine prochaine. Vous avez des choses à nous dire?
L'adresse pcdi@radiorfa.com.
On souhaite une bonne semaine.
Oui, bonne semaine.
Et on se retrouve pour une autre édition la semaine prochaine.